prêt?
Oui, mon lieutenant.
Alors, à l'attaque!
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans La Tactique. Pour ce dernière émission de la saison, on a décidé de faire un florilège sur des sujets qui nous embêtaient, sur des choses qui ne nous plaisaient pas, et également pour évoquer les différents chantiers ou mouvements ou idées que vous pourriez faire cet été. Et à cette occasion, aujourd'hui, on reçoit Julien.
Salut tout le monde, merci de m'accueillir.
Merci bonjour. À toi d'être venu.
Bonjour.
Et alors, pour commencer nos sujets qui fâchent, on avait décidé de parler privatisation. Alors, privatisation au sens large et après, peut-être plus du côté de la SNCF, pas.
Pourquoi pas ?
Parce que voilà, c'est un exemple très particulier et Julien pourra toujours témoigner sur la SNCF. Du coup, au départ, pourquoi privatiser ? Pourquoi a-t-on cherché à privatiser ?
Pour faire gagner de l'argent aux multinationales.
Ah, moi, c'est ce que je me dis aussi, d'une certaine façon, indirectement, oui.
Au départ, oui, c'est ça. C'est, on promet au peuple, voilà, on va faire marcher la concurrence, et donc vous allez forcément être gagnant. Et c'est pour ça qu'on a privatisé le téléphone, le transport.
Et on voit bien que les autoroutes, depuis qu'elles sont privatisées et que nos impôts payent quand même les travaux, ça n'arrête pas d'augmenter, quoi.
Ah oui, mais... Alors on n'est pas vraiment en privatisation pour la,
bah les oui, autoroutes. C'est des concessions quand même.
Qui sont extrêmement longues, je suis entièrement d'accord. Je parlerai plus de détournement de fonds que de privatisation
oui,
moi, pour
d'accord.
les autoroutes. Mais privatisation... Alors moi, quand j'étais jeune, donc il y a une vingtaine d'années, je pensais que la privatisation avait un intérêt. Alors moi, par exemple, quand Internet est arrivé, que je voyais Free d'un côté... Et à l'époque, c'était France Télécom, après oui. Wanadoo de l'autre. Je comparais les prix. Et je me suis dit que oui, la privatisation a eu cet intérêt-là, en fait, pour moi, pour me faire profiter d'Internet et à un tarif abordable.
Et puis même, bon, après, avec les forfaits téléphoniques et tout ça, c'est vrai que les prix du téléphone, ils ont vachement baissé. Nous, à l'époque, on faisait attention à... Quoi, on ne restait pas des heures au téléphone parce que ça coûtait une blinde, quoi. Après, à partir de ce moment-là, c'est vrai que du coup, il y a eu les forfaits et là, les tarifs, ils ont baissé.
Mais moi, je dirais après, au niveau sociologique, le problème d'avoir trop de communication limitée, alors aujourd'hui, il y a beaucoup trop de gens qui parlent pour ne rien dire. Alors que moi, premier, quand j'étais collégien, j'avais ma télécarte 50 unités. Quand je m'en servais, c'était vraiment à des fins très utiles, genre pour dire, ben voilà, là, je rentrerai à telle heure, je fais ci, je fais ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est tout le contraire. On communique énormément, mais pas toujours pour des choses essentielles,
clairement.
Voire même pas du tout.
Ah non, on raconte beaucoup de choses, mais sans parler, sans interagir vraiment.
Puis comme dirait Fred Testo, je ne supporte pas les gens qui ne parlent pour ne rien dire, parce que ça m'oblige à écouter pour ne rien entendre.
Eh oui.
C'est joli, oui. Mais tu sais, il y a 20 ans, quand on voulait passer des communications téléphoniques, et ça m'est arrivé avec quelqu'un que j'aimais, je passais 2 heures au téléphone aussi. Hein. C'était le seul moyen de communication parce qu'il était loin. Et donc, je pouvais passer aussi beaucoup de temps au téléphone.
Hein. Ouais, bien sûr. Non, mais en plus, c'est vrai que moi aussi, j'ai connu, comme je disais Julien, moi, je me rappelle les SMS où on écrivait... on était réduit au nombre de caractères.
C'était quand même, c'était genre 1 franc le SMS, donc l'équivalent de 15 centimes d'euros aujourd'hui. Donc, ouais, on comptait parce que moi aussi j'ai eu un MobiCart à 70 francs. Et c'est vrai que si on n'était pas vigilant, ça descendait vite.
Bah hein. Ouais,
c'est clair. Et ben non, moi j'écrivais des lettres d'amour.
Alors, c'est vrai que à cette époque-là, comme aujourd'hui, moi je n'ai jamais trop voulu, rogner sur la langue française. Donc, j'ai toujours mis un point d'honneur à bien écrire quand même. Ne serait-ce que. Par respect pour la personne qui allait lire, quoi.
On s'écrivait.
Oui, moi aussi.
Ça coûtait moins cher que des SMS. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si
les SMS existaient pas à l'époque.
Oui. Voilà.
Non, les SMS sont arrivés avec la 2G, je crois.
Oui, moi, je te parle d'il y a 20 ans.
C'était fin années 90, je pense, plus ou moins, que ça a dû apparaître.
Oui, peut-être. Je crois que le premier réseau, il n'y avait que le téléphone. Et avec la 2G, est apparu les SMS, oui, probablement. Et donc... À l'époque, je considérais que la privatisation avait un intérêt, Et à l'heure actuelle, par contre, quand on parle de privatisation de la SNCF, je ne peux pas m'empêcher de mettre les deux en parallèle. Où je me suis dit, autant à l'époque, je comprends que Bouygues Télécom, Free ou X puissent circuler en même temps sur le même cap téléphonique, autant pour les trains, j'ai du mal à comprendre comment on peut faire ça et comment ça peut avoir un intérêt et un sens en fait.
Eh ben moi je te dirais, il y a quelque chose de très très subtil dans cette affaire que beaucoup de gens ignorent je pense, c'est qu'en réalité la SNCF quand elle a commencé à s'ouvrir à la concurrence, ça a commencé d'abord par les trains de marchandises, c'était en 2006-2007 à peu près, si je dis pas de bêtises, et en réalité il s'agissait de marchés que la SNCF avait abandonnés et qui ont été repris par des entreprises ferroviaires privées. Et aujourd'hui c'est encore un peu le cas aussi parce que d'une certaine façon, à ma connaissance, que ce soit aussi bien pour les trains de voyageurs que pour les trains de marchandises, la SNCF ne s'est jamais fait piquer du marché. Par contre, à l'heure d'aujourd'hui, là où c'est qu'on commence à ouvrir davantage à la concurrence, donc là c'est de l'ouverture à la concurrence et non pas de la privatisation, certaines lignes comme par exemple en région PACA, dans le Grand Est ça va commencer par certaines lignes il me semble comme Strasbourg, Saint-Dié-des-Vosges, en Champagne je ne sais pas encore si quelque chose de véritablement prévu. Mais en gros, ce sont des appels d'offres et c'est l'entreprise donc, qui fait le meilleur offre qui remporte le marché. Et là où est la subtilité, c'est que la SNCF, elle va proposer ses filiales avec du personnel de droit privé. Et c'est là qu'est la subtilité.
C'est tour de jouer.
Voilà. En gros, c'est un magnifique subterfuge.
Alors... Moi, je le vois venir. Est-ce que tu peux juste développer pour nos auditeurs, en fait ?
Bah moi, j'ai un exemple très concret. Là, un des prochains dépôts en France qui va être au niveau des trains régionaux, qui va être ouvert à la concurrence, c'est le dépôt de Nice, donc en région en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et un appel d'offres a été fait il y a quelques années et c'est Transdev qui l'a remporté. À savoir que Transdev, c'est un groupe qui appartient à la RATP.
Ah oui. D'accord.
Et donc l'appel d'offres était remporté en disant bah voilà, genre par exemple nous on a besoin, je dis une bêtise hein, je ne connais pas les chiffres précis, pour assurer la charge de travail on a besoin de 40 conducteurs. D'accord. Et à l'heure actuelle il y en a 60. Donc là, ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, c'est que bah, là, les gars sont en train de se battre pour se dire « Bon, bah, moi, je veux ma place, j'ai ma villa, j'ai ma famille, j'ai mes enfants qui sont à l'école, je peux pas quitter le dépôt de Nice. » Donc en fait, les gars, ils sont en train de s'entretuer un petit peu pour savoir qui est-ce qui va avoir la place, quoi. Alors que si on recule de 10-15 ans, si j'ose dire, dans l'entreprise, s'il se passait ça, alors là, c'était une grève, on bloquait tout, l'affaire était réglée en quelques jours, en quelques semaines. En fait, l'entreprise capitulait. Et là, aujourd'hui, au niveau sociologique, les mentalités ont fortement évolué. Moi, le premier, je me suis rendu compte que les gens étaient de plus en plus individualistes, pour ne pas dire égoïstes. Si, si, ils sont égoïstes un peu aussi. Et du coup, là, c'est chacun sa peau et cette unité a été brisée.
Pour le travail, c'est chacun sa peau. Hein.
Après, moi, j'ai un parfait contre-exemple. Quand je conduisais encore des trains de voyageurs, j'étais dans un roulement de 9 conducteurs et on se serrait les coudes, on était un roulement de conducteurs pur et dur. Ouais. Donc, quand on voulait commencer à faire des choses au détriment de la qualité de service et de notre, et de notre qualité à nous aussi de vie. Donc on se mettait tous d'accord, blam, on les faisait capituler en peu de temps. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'on en a envoyé 2 au TGV. Il y en a 3 qui sont partis à la retraite. Donc du coup, on n'était plus que 4. Et ensuite, ils ont recruté d'autres conducteurs, des tout nouveaux, qui ne connaissaient pas le métier tel que nous, on le connaissait. Et là, tour de magie, nous, on avait beau faire grève, on avait beau être mécontents, etc. On s'est fait ratatiner. Et là, c'était en quelques semaines, c'était réglé. Ils ont réussi à diluer justement le noyau dur en très très peu de temps. Donc là, c'est un cas qui m'est vraiment personnel. Mais je suis convaincu que c'est quelque chose qui a dû déjà se produire ailleurs dans d'autres dépôts de France et même dans d'autres corporations de métiers. Hein.
Ouais. Totalement. Mais tu parlais d'un dépôt et d'une ligne là. C'est géré par la SNCF ou c'est géré par le département ou la région ?
Alors maintenant, il faut savoir que l'autorité organisatrice d'un transport régional, bah justement, c'est le conseil régional.
Oui, bah oui.
Là, par exemple, pour nous, sur Reims, c'est le conseil régional Grand Est.
Grand Est, oui.
Bah, après, il y a les Hauts-de-France. Après, il y a Auvergne-Rhône-Alpes, etc. Parce que, ça fait déjà quand même, alors je ne saurais dire combien d'années exactement, que le transport régional n'est plus du tout organisé par la SNCF, mais vraiment par les conseils régionaux. Donc c'est-à-dire que c'est eux qui financent le matériel, donc l'achat, l'entretien, c'est eux qui financent également le personnel, donc aussi bien pour le conduire, pour mettre des contrôleurs à bord, pour l'entretenir, Et donc, au fur et à mesure, justement, il y a des appels d'offres qui sont faits pour que, en fait, la région continuera de payer, mais les prestataires vont être divers et variés parce que, par exemple, il n'est pas exclu qu'à certains endroits, bah, ce soit encore la SNCF qui ait le marché. Pourquoi ? Parce que les autres entreprises ne sont pas intéressées. Elles ne gagneraient pas d'argent.
D'accord, ouais, ok. Ouais.
Donc, c'est-à-dire que c'est ça qui est triste dans cette affaire, c'est qu'on n'hésiterait pas à sacrifier une ligne parce qu'elle ne rapporte pas d'argent. Enfin, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, d'une certaine façon.
Ouais, mais là, justement, on a sacrifié beaucoup de lignes. Là, on a entendu, ça fait peut-être un an, je peux me tromper, où ils commencent à réouvrir les lignes de nuit. Est-ce que ces lignes-là vont être ouvertes à la concurrence ou est-ce qu'il va y avoir des appels d'offres, hein ?
Alors, c'est prévu parce qu'en fait, ce sont des trains qu'on appelle intercités. Et pour l'instant, ce sont des trains qui sont financés par l'État.
D'accord.
Mais, et donc, il y a quelques lignes intercités qui sont déjà prévues d'être ouvertes à la concurrence. Là, de tête, il me semble que la prochaine à venir, ça va être la liaison qui va de Nantes à Bordeaux. Donc, et le matériel, donc, le matériel serait revendu à l'entreprise qui remporterait le marché. D'accord. Après, pour ce qui est des trains de nuit, là, je pense que c'est aussi un petit peu le même cheval de bataille parce que, bon, malheureusement, pendant pas mal d'années, les lignes train de nuit étaient déficitaires. Pourquoi exactement, je ne le sais pas, parce que moi, quand je prenais le train de nuit, il était toujours plein à craquer systématiquement. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire avec ça ? Ouais. Donc oui, pour ce qui est des trains de nuit, donc là je pense que alors, aujourd'hui ils ont peut-être réussi à retrouver le moyen d'avoir une politique tarifaire qui attire davantage de gens à gagner un peu de sous, mais pour moi il est quand même prévu que ces lignes-là soient quand même revendues à la concurrence dans le futur.
D'accord. Et ton point de vue à toi, est-ce que ça aura un intérêt pour le voyageur lambda ? Que ça soit vendu à la concurrence ou pas, ou t'en sais rien ?
Bah, moi, ce qui pourrait m'inquiéter, parce que comme je te disais tout à l'heure hors antenne, il y a à l'heure actuelle quelques entreprises ferroviaires privées en France qui font des trains de voyageurs. Par exemple, il y a Trenitalia qui fait une liaison Paris-Lyon-Turin. Pendant un temps, il y avait la compagnie Tello, donc là, c'était une filiale franco-italienne qui faisait les trains de nuit Paris-Venise, par exemple, et Paris-Rome. Et ben, à l'époque de Tello, justement, si jamais le train était supprimé pour X ou X raisons, donc panne de locomotive ou je ne sais quoi d'autre, et ben, les voyageurs, ils n'avaient aucune alternative via la SNCF pour avoir une correspondance pour repartir, c'est-à-dire bah, il fallait qu'ils rachètent clairement un billet.
D'accord.
Là tout à l'heure j'ai pris le train à Paris pour revenir sur Reims, et ben il s'avère qu'il y avait une correspondance qui avait foiré parce qu'il y avait eu un train supprimé ou je ne sais quoi. Donc là il y a encore un système de conciliation qui fait que si on n'avait pas prévu de prendre un billet à bord de ce train-là, on peut s'arranger avec un autre train. Normalement, on va dire, ils font preuve de compassion. Mais après, il y a un autre petit détail. On va parler justement. Alors, c'est une filiale de la SNCF que vous connaissez peut-être qui s'appelle Ouigo.
Oui. Oui.
Voilà. Alors là, par contre, là, il y a une petite arnaque. Je vais vous expliquer pourquoi. Si un voyageur, par exemple, achète un billet Paris-Marseille et que le Ouigo ne circule pas, eh ben, à aucun moment, on pourra l'autoriser à emprunter un TGV classique.
Ah, voilà. Évidemment.
Et oui, donc déjà la SNCF, elle se concurrence elle-même à pas mal de, sur pas mal de points, sur pas mal de lignes, etc. Et moi, pour moi, ma grosse crainte, donc pour répondre à ta question, Simon, c'est que si on accentue véritablement la privatisation, moi je crains en fait qu'il n'y ait aucune coopération inter-entreprise parce qu'on ne va raisonner uniquement que par l'aspect financier. Par contre, il n'y aura pas d'entraide mutuelle, ça j'y crois pas. Hein.
Mais moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est qu'en Grande-Bretagne, ça a été le rail a été privatisé, puis ça, c'était, c'est quoi ? Ils renationalisent maintenant parce que ça a été vraiment une catastrophe, quoi.
Tout à fait. Ben là, à l'heure actuelle, ben là en France, on n'en prend encore pas trop le chemin. Après, ceci dit, bon, là j'ai un contre-exemple, hein, c'est la Suisse. Donc là-bas, les chemins de fer fédéraux suisses, qui est l'entreprise nationale, je dirais peut-être pas loin de 2/3 des circulations sur le pays, mais il y a également des entreprises privées. Il y a BLS, les autres, je ne me rappelle plus de leur nom précisément. Et malgré tout, ça fonctionne bien. Il y a une excellente cohabitation. Et il faut savoir que quand on achète un billet de train en Suisse, c'est valable sur n'importe quelle compagnie.
D'accord.
Par exemple, en Suisse aussi, il y a une formule qui s'appelle l'abonnement général, donc pour l'équivalent d'à peu près 1 500 € par an, donc je fais tout de suite conversion, on ne va pas parler en francs suisses. En fait, l'abonnement général permet d'accéder en illimité à tous les moyens de transport, tous les trains, tous les téléphériques, tous les bateaux, tous les bus, et ceci avec la plus grande transparence, voilà. Malgré que ce soit des entreprises différentes qui gèrent tout ça.
Ouais. Mais tu disais par contre, oui, mais le réseau de rails appartient à la Suisse.
Oui, en fait, c'est un petit peu comme en France, c'est-à-dire que le réseau appartient encore à l'État suisse.
Okay.
Alors, je ne sais plus si c'est CFF qui l'a ou si c'est une entreprise parallèle, je ne sais plus. D'accord. Exactement, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais néanmoins, ça fonctionne très bien.
Ouais, c'est vachement intéressant, oui.
Oui, mais ils sont peut-être moins dans une course au profit à tout va, quoi. Bah,
disons qu'aussi, avec la structure du pays...
C'est petit, voilà, c'est un petit pays.
C'est quoi, c'est à peu près 5 fois plus petit
que la France. Qui a des moyens, quand même.
Ah oui, ils ont des sous en Suisse, question
de ça.
C'est ça
aussi, ouais.
Mais bon, aussi, il y a la structure du pays qui fait que, comment dire, du fait que c'est extrêmement montagneux, enfin, par endroit, faire du transport routier, ça serait pas judicieux. Donc, il y a à peu près 150 ans, on a vraiment mis le paquet sur le ferroviaire, ils ont fait des tunnels de 15 km de long sous les montagnes. Et voilà, et ils ont su l'entretenir, ils ont su le développer et ça fonctionne très très bien. Je sais que par exemple, moi j'ai déjà voyagé en Suisse en train à plusieurs reprises. C'est génial, on se pose aucune question. Ouais. Parce qu'en plus, c'est extrêmement bien cadencé. Et moi, il y a aussi autre chose que j'ai apprécié, c'est que par exemple, les petites lignes qui vont dans le fond des vallées, parce qu'après c'est la montagne, on peut pas aller plus loin, et c'est même desservi jusqu'à minuit, 1h du matin, pour que les gens qui rentrent par exemple de Neuchâtel, des choses comme ça, puissent rentrer chez eux. Ouais. Donc il y a une véritable notion de service qui malheureusement s'est perdue en France au niveau du ferroviaire.
Ouais. J'allais rebondir dessus. Excuse-moi Sylvain, vas-y, j'irai
après. Oui, je voulais simplement dire que la Suisse est quand même déjà un pays petit, mais en même temps, ils ont aussi l'habitude, avec leurs votations très nombreuses, leur référendum, pour une question ou une autre, ils ont l'habitude d'être consultés et donc de donner leur avis.
Et justement, l'autre gros intérêt que je trouve qu'il y a en Suisse, c'est que c'est un système fédéral. Donc, c'est-à-dire que c'est pas un pouvoir centralisateur qui dicte ses lois pour tout le pays, mais au niveau cantonal, les règles sont adaptées, que ce soit au niveau du code de la route, que ce soit au niveau de l'éducation, etc. Et moi, je trouve que c'est mieux géré, parce que faire appliquer bêtement, purement une règle, surtout pour les grosses métropoles, quand on habite au fin fond de la Lozère, je vois pas l'intérêt, quoi.
Ça n'a pas, non.
C'est un petit peu ça le problème aussi. Moi, je trouve qu'en France, on est beaucoup trop centralisateur. Ah, et en fait,
ça vient de l'histoire, c'est l'historique.
Hélas, oui. Mais
la monarchie.
Moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'on refuse d'évoluer dans ce pays.
Ça.
Et du coup, je voulais rebondir avec la notion de service. Parce que comme tu l'as bien fait remarquer, à un moment donné, sur certaines lignes, la SNCF n'était pas rentable. Mais à l'époque, la SNCF, c'était un service.
On est bien.
Et à quel moment on a perdu cette notion de service?
Alors, je vais juste te donner une petite explication. C'est que donc, la SNCF, c'est une entreprise qui a été créée en 1938. Parce que juste avant ça, il y avait 5 grandes compagnies privées qui étaient totalement déficitaires. Et on avait vraiment besoin du train pour continuer à développer le pays. Donc l'État a racheté 51% de l'ensemble de ces compagnies et pour glisser jusqu'en 1981 où l'État devenait actionnaire à 100% de tous les réseaux et donc c'est comme ça qu'a été créée la SNCF.
D'accord.
Et même avant ça, il faut savoir que les trains qui étaient excédentaires permettaient justement de combler les trains qui étaient déficitaires. Okay. Par exemple, des trains de voyageurs qui sont pleins à craquer, qui sont rentables, qui font une grosse plus-value, et ben cet excédent, on s'en servait pour faire rouler le dernier train qui partait à 23h d'Épernay, qui arrivait à 23h30 à Reims.
Ouais, tu lisses ton argent avec tout ça.
Ça marchait très très bien. Après, alors ça, c'est quelque chose encore que j'ai pas réussi à comprendre. On nous a fait croire que l'Union européenne avait contraint la France, justement, de diviser par activité, donc d'un côté TER, de l'autre côté Transilien, de l'autre côté Intercité, TGV, etc. Parce que sinon, c'était de la concurrence déloyale par rapport aux autres moyens de transport. Et à partir de ce moment-là, donc les activités dont les caisses débordent d'argent comme TGV, elles se portent bien. Par contre, entre-temps, le fret ferroviaire s'en sortait plus, les trains régionaux, les régions n'arrêtent pas de mettre la main à la poche pour essayer de faire survivre. Parce que bon, moi, le premier à l'heure actuelle, j'estime que le transport régional, il est vraiment malmené. Bon, Transilien, donc les trains de banlieue, ça se passe plutôt bien. Parce que bon, il y a quand même 10 millions de personnes en Île-de-France. Donc là, faut quand même quelque chose qui tient la route. Hein, parce que déjà, tout est déjà saturé.
Oui, puis la majorité des personnes qui empruntent le Transilien sont financées à moitié par leur employeur.
En plus, oui. Et surtout, donc, pour répondre à ta question, moi, je pense que le déclin de cette qualité de service, de cette notion de service, elle est arrivée quand on a commencé à sectoriser les différentes activités.
D'accord.
Parce qu'avant, c'était unifié. Jusqu'à peu près dans les années 80, on avait des locomotives qui étaient capables aussi bien de tirer des trains de voyageurs à 200 km/h que des trains de marchandises qui font de l'ordre de 4000 tonnes. C'était la même machine, c'est-à-dire que moi, j'ai, par exemple, je connais des conducteurs, ils partaient de Vers en banlieue parisienne, ils emmenaient un train de marchandises de Vers-sur-Marne, donc pas très loin, entre Meaux et Paris plus ou moins, pour emmener ça à Metz. Ils décrochaient la locomotive, ils se remettaient en tête d'un train corail, et en plus, après, ils redescendaient tout à Paris. Donc là, à cette époque-là, on va dire, ça tournait bien. À partir des années 2000, là, ça a commencé à se gâter un petit peu, parce qu'avec ces histoires d'activité, chaque activité avait ses locomotives. Oui. Donc, par exemple, il y avait les locomotives pour fret, il y avait les locomotives pour TER, il y avait les locomotives pour intercité. Alors, ça arrivait encore quand même, enfin, moi j'ai connu ça quand je faisais encore des trains de voyageurs, que pour dépanner, on pouvait emprunter une locomotive à Transilien pour faire un train intercité, ça pouvait se faire.
D'accord.
Et là maintenant, tout ça, c'est totalement inimaginable. Oui. Chacun a ses machines, c'est chasse gardée.
Ouais, tout a été vraiment sectorisé, séparé, voilà. Et en fait, personne ne communique ensemble. En fait.
Voilà. Par exemple, tu as un train de 16 voitures qui veut partir de Paris-Gare de Lyon. Malheureusement, la locomotive, elle est en panne. Et à côté, il y a 4 locomotives fret qui sont strictement identiques sur le plan technique, qui peuvent faire le train, mais elles sont à fret. Et si fret veut les louer à intercité, ah bah là, ils vont crash le cash, quoi.
D'accord.
Et donc, du coup, on va préférer supprimer le train. Enfin, bon, c'est ça qui est triste aujourd'hui, quoi.
Je suis d'accord. En plus, quand on a segmenté tout ça, parce qu'on a vu ça dans l'enseignement aussi, quand on a segmenté les cours, les TD et les TP de la même façon, dans tous les services comme à la poste, on a aussi tout segmenté et compté le temps qu'il fallait pour chaque action. En fait, ça n'avait qu'un seul but après, c'est de réduire son personnel, en fait.
Ben, chez nous, c'est exactement ça aussi, parce qu'en gros, on ne jure que par l'aspect économique, très clairement.
Ben non, mais oui, puis tu réduis le personnel, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de moins en moins de personnes. Mais je t'ai expliqué la semaine dernière où j'étais à la gare de Reims, hein, et en fait, l'ascenseur était en panne, et donc quelqu'un vient me voir pour m'aider à traverser, et elle m'explique qu'ils n'étaient que 2 agents en gare, et donc que le TGV pour Paris ne pourrait pas partir à cause de moi, en fait. Et parce qu'il n'y a plus personne, en fait, en gare.
Ah ben, c'est sûr que, bah, par exemple, à la gare d'Épernay, avant, il y avait 2 agents, donc il y avait le chef de service et son adjoint, parce que des fois, ça arrivait qu'il y ait un train sur un quai et un train sur l'autre quai. Donc, et là, maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul agent, un seul chef de service, et encore, il n'est même plus là pour les derniers trains du soir. C'est-à-dire, on a créé une sortie nocturne pour que les gens se débrouillent.
Okay.
Et par exemple, bah, une personne qui a oublié sa valoche ou alors qui a eu un souci, etc. Et bah, déjà, elle va remarquer l'absence de contrôleur dans le train. Donc bah, là, c'est foutu, on peut rien faire. Et surtout, c'est qu'en arrivant à la gare, en terminus, bah, y a plus personne non plus. Si, qu'est-ce qui reste ? Il reste des numéros pour pleurnicher, quoi. Voilà, appeler le. Je sais plus. Enfin, j'appelle pas ces numéros-là forcément. Mais voilà, on en est arrivé là aujourd'hui. C'est qu'en fait, les gens, bah voilà. Alors, on se plaint sur Internet, sur les réseaux sociaux, ou alors on appelle le numéro de téléphone. Mais bon, après, les personnes qui répondent, on les a formées pour être imperméables aux réclamations, ouais. etc. Elles vont tout faire pour dire oui, excusez-nous, pardon, voilà. Enfin bon, en gros, c'est de la bienséance à outrance, quoi.
Mm-hmm. Ouais. Sylviane, t'as l'air rebondir dessus ou pas? Je t'avais dit, ok, non, parce que moi j'allais rebondir dessus, parce que oui, j'allais en parler, parce que justement, on a fait la même chose à la Poste ou même à la CEPAM. Où en fait, tu ne peux plus discuter avec une personne physiquement, avec la personne qui a accès à ton dossier. Si tu as un problème à la poste pour un envoi, il faut que tu fasses une réclamation et que tu envoies un mail. Mais si tu vas à la poste pour le faire, la personne devant toi ne pourra rien pour toi.
Ben, c'est, en fait, tu vois, cette notion de service qui est en train de régresser monstrueusement, malheureusement, elle n'est pas qu'à la SNCF, hein, c'est absolument dans tous les services, hein, et même que ce soit en préfecture, etc. Moi, je vois par exemple les gens qui n'ont de cesse de se plaindre, hey, attendez, dans les préfectures, dans les sous-préfectures, ça n'avance pas, mais ils ont le même problème que nous, c'est que les gens sur le terrain disparaissent progressivement.
Ouais. Oui, et je parlais de la CEPAM, et la CEPAM, c'est pareil. On a séparé, alors, dans le jargon informatique, le back-office et le front-office, c'est-à-dire la personne qui va gérer la relation client et la personne qui va gérer le dossier. Avant, même à la Sécu, tu pouvais aller et discuter avec la personne qui a fait ton dossier. Là, que ce soit par téléphone, sur Internet ou en présentiel, j'aime pas ce terme-là, mais on va l'utiliser, la personne va mettre un post-it sur ton dossier, le mettre dans une corbeille, et c'est une autre personne qui va
suivre,
le gérer.
Voilà.
Et on n'a plus accès à ça, en fait.
C'est partout pareil. Hein. Pôle emploi, faut que tu fasses toutes tes démarches sur Internet. Tu peux voir un conseiller quand te convoque, mais sinon, c'est...
Mais ça, en fait, ça ne me dérangerait pas si, à un moment donné, mon conseiller pouvait agir concrètement
après,
sur mon
dossier.
Après,
j'ai une amie qui travaille dans une mutuelle privée. En fait... tout est coupé par tâche. C'est comme pour le reste, quoi. Donc, elle, par exemple, elle peut être toute une journée à faire que répondre à des mails. Elle arrive, elle ouvre son ordi, elle a 500 mails, elle répond au fur et à mesure de la journée, et vers 16h, hop, c'est rempoté. Donc déjà, elle finit sa journée, elle n'a pas l'impression d'avoir fait quoi que ce soit. La personne, l'échelon suivant n'a pas géré le mail comme il se devait, la personne va appeler, sauf qu'elle va tomber sur quelqu'un qui n'est pas au courant du dossier, il va falloir qu'elle le réexplique et tout. Et en fait, c'est vrai que pour les usagers, c'est l'horreur. Et le problème, c'est que c'est tellement comme ça partout qu'on se dit même pas je vais changer de mutuelle ou je vais changer d'assurance ou je vais changer d'opérateur téléphonique parce
que ce que je vois c'est la résignation qui est engendrée par tout ça parce que la plupart des gens sont résignés maintenant
veux faire comment
c'est sûr là prendre le problème à bras le corps ça demande beaucoup de courage
parce que si tu te dis cette mutuelle du coup j'en change le problème mais c'est la mutuelle d'à côté c'est pas mieux quoi
c'est ça le problème.
Mais c'est surtout, la mutuelle, c'est relativement privé, mais même au niveau des services publics, que ce soit... J'ai posé une question au médiateur de la République, j'attends encore la réponse, de toute façon. Et par exemple, Pôle emploi, même quand on va en présentiel, dans les centres de Pôle emploi à Reims, mon fils, par exemple, qui est intermittent du spectacle, il ne trouve pas une personne compétente pour répondre à ses questions.
Oui, mais ça, c'est... à l'époque, en 2014, je travaillais au Greta. Et il y avait eu une énième réforme de Pôle emploi.
Ça n'arrête pas de changer.
Où avant, c'était par type d'emploi. Tu avais une agence qui allait être spécialisée dans le bâtiment, une autre dans le spectacle, une autre dans le tertiaire. Donc, en fait, les conseillers qui étaient là connaissaient les métiers et pouvaient répondre. Parce que, je sais pas, opérateur téléphonique, tu peux te dire que c'est appel entrant, appel sortant, que c'est à peu près ressemblant. Il y a des métiers, c'est pas la même chose. En informatique, informaticien, ça veut tout dire et rien dire. Il y a tellement un panel de métiers derrière. Donc les gens, les conseillers, connaissaient les métiers. Et en 2014, ils ont rattaché. Alors il y a eu peut-être encore d'autres modifications depuis, je ne sais pas. Mais tu es rattaché par un secteur géographique. Si tu habites telle ville, tu vas être à telle agence. Mais du coup, les gens, les conseillers qui sont là, ils connaissent peut-être rien du tout à ta profession. Et ton fils, c'est ce qui doit lui arriver, quoi.
Mais le fait d'avoir segmenté tout ça, on a aussi... Et la technologie a permis aussi d'uniformiser cette segmentation et de pouvoir avoir des postes qui sont remplaçables les uns par les autres. Et en fait, on est passé du taylorisme mécanique au taylorisme numérique, en fait.
Oui, mais après, si tu veux, il y a aussi... Parce que c'est valable aussi dans la santé. Pour eux, ils comptent... Une infirmière, c'est interchangeable. Mais non, une infirmière... Moi, j'ai une amie, elle est infirmière. Elle était... le plus de sa carrière, elle a fait en orthopédie. Tu la mets en cardio, je dis pas qu'elle va savoir rien faire, mais pas grand-chose, quoi. Ce qu'ils comprennent pas, c'est que derrière un titre ou une profession... Eh ben selon l'endroit où on va, le service où on va travailler, les compétences, elles ne sont pas du tout les mêmes. Quoi. Même si on est infirmière, c'est pas la même chose partout. Quoi.
J'entends bien. Et pour rebondir sur ce que je disais, en fait, vous pouvez lire dans la revue des possibles de l'hiver 2021, justement, il y a une étude sur le travail et comment évoluer le travail et... Comment l'informatique a permis de revenir à une certaine forme de taylorisme au travail. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Je me dis peut-être qu'on peut faire une petite page musicale. Donc, vu que je suis le seul à avoir préparé de la musique, je vous demande, est-ce que vous voulez du Renaud ou des Vrigels?
Les deux.
En même temps?
Sinon, on peut chanter. Mais bon.
D'accord.
On va épargner ça, nos auditeurs.
Bon, allez, un petit Vrigels, alors.
Ça marche. C'est parti.
Ma philosophie de la vie, je l'ai apprise aux prises uniques. Il faut faire la queue, acheter le plus qu'on peut, sans se faire doubler par les vieux. Je crée mes envies, mes avis, mes amours propres au monoprix. Je profite des promos, j'achète que des lots, sans me faire bousculer par les gros.
de belles images en couleur. Y'a tout ce que j'aime, y'a tout ce que je veux. Des pâtes, des couches, des clous, du beurre. C'est comme le pays des jouets, des enfants du conte Pinocchio. Cette caissière est pas mal roulée, ce rayon regorge de vélos.
J'ai vendu mon âme en promo. Le SBAM, c'est la Bible en quatre mots. Souris, bonjour, au revoir, merci. Je cède ma vie à moitié prix. Pendant que je fais glisser les slips sous les bips, je rêve à mon clip. À l'apogée de ma carrière, j'oublierai l'enfer du Leclerc.
Mes histoires d'amour courent toujours autour des couloirs du carrefour. Je suis les gonzesses, je tripe sur leurs fesses, sans jamais passer à la caisse.
Mon option au bac, c'est l'arnaque du Vigile Black de chez Attac.
Je shoote la vodka, des scuds du coca, méga scrud face aux caméras.
Oh là la folie des vendeurs, ça tombe mal, je suis de mauvaise humeur. Faut pas qu'ils m'agressent, pas qu'ils me causent. S'il y en a un qui me touche, l'explose. Dani, t'éloigne pas du caddie. Pourquoi j'ai amené le gosse? Longtemps que je suis pas venu un samedi. Ce jour-là, d'habitude, je bosse.
Je fais le bonheur de mes supérieurs. Je suis le meilleur des acteurs. Pour que le beau frac, je fais des miracles. J'adapte à chaque fois mon spectacle.
Pour les mamans,
je suis sensible.
Pour l'exigeant,
je suis crédible. Pour mieux vous servir, je m'exerce à sourire comme Julien Lepers.
Mes informations font légion pour toutes les questions du champion.
Je crée des slogans qui laissent les parents impuissants face à leurs enfants.
Je fais la police au service des bénéfices de Leaderprix.
Je traque les anoraks, je fouille dans les sacs. Et quand je craque, je fous des paires de claques.
Devant la montagne de bonbons, j'ai l'air minuscule, je me sens con. J'aurai jamais assez de mains pour retenir ce con gamin. Dani, repose-moi cette voiture. Tu sais que j'aime pas quand tu demandes. J'ai déjà dit oui pour les chaussures. J'ai déjà dit non pour les trois bandes.
Je dépense donc, je suis heureux. Si loin des soucis quotidiens, des paquets cadeaux plein les yeux, le rêve importé de ma main. Lorsque j'entends toute la misère dont on me parle dans la télé, je viens faire mon plein de super sous les tubes du supermarché.
Ma notion du temps, je la prends en poireautant, tranché au champ. Je vends l'itinérant d'un air suppliant, sans me faire chou ravi mon client.
Notre ultime sursaut sera beau sous les panneaux du casino. Nous irons sans retard au ciel par milliards pour nous réincarner en code barre.
Ah, tout est dit, moi j'ai adoré.
Je la trouvais d'actualité, enfin je la trouve vraiment bien.
Ah mais pour moi tout est dit, et en plus c'est de la poésie, j'essayais de compter les pieds, voir si c'était poussé à l'excès, si c'était de l'alexandrin ou je sais pas quoi. Bon, j'ai surtout bien entendu les rimes et surtout j'ai entendu le texte. Ah mais comme d'habitude Simon, ce que tu nous sors comme chanson c'est génial.
Non mais je trouve qu'elle est vachement, elle est vraiment recherchée, je la trouvais qui collait bien.
Bah moi ce que je me dis par rapport à cette chanson, moi je lis un peu plus entre les lignes et je pense à l'état d'esprit des gens qui nous entourent, qui ne se posent pas les bonnes questions justement sur la privatisation, parce que on arrive tellement, je vais être méchant, mais on arrive tellement à abrutir les gens sur certaines choses qu'en fait ils n'ont pas la capacité d'ouvrir les yeux, de voir ce qui se passe réellement, parce qu'en fait ils se plaignent des qualités de service pitoyables, mais il faudrait peut-être pas qu'ils se trompent d'adversaire.
Et du coup, pour rebondir sur la privatisation, c'est ça qu'on a abordé la SNCF, hein, un peu la Poste et les télécommunications. Mais la santé est en train d'y passer, va y passer, l'alimentation aussi. Et c'est effrayant ce détournement d'argent. Alors, du public qui passe au privé.
Moi, non, là, pour l'alimentation, il va y avoir des chèques hein, pour les pauvres, pour se nourrir.
Moi, ce qui m'inquiète au niveau de la privatisation, c'est l'eau potable, parce que ce que je cherche à l'heure actuelle, c'est de plus en plus d'entreprises privées qui régissent cela. Et moi, j'aime bien des fois, c'est faire des parallèles avec le cinéma et le monde réel. Moi, je me rappelle d'un James Bond qui s'appelle Quantum of Solace, ouais. Où c'est que justement, bah, le méchant, comment qu'il veut prendre le pouvoir, bah, en s'accaparant, comment dire, les réserves d'eau potable et en mettant à genoux, bah, justement, les dirigeants d'un pays. Et moi, c'est ce que je suis en train de me dire, c'est qu'à l'heure actuelle, ce ne sont pas les dirigeants qui sont en tête des États qui dirigent, mais ce sont ceux vraiment qui détiennent l'argent et qui font la pluie et le beau temps, bah, sur tous ces services qui arrosent un pays. Enfin oui, c'est le cas de le dire, pour la flotte. Et moi, je pense qu'en fait, le véritable problème sous-jacent, c'est ça.
Oui, oui, et puis il y a aussi la privatisation des barrages.
Ah. Oui, tu mets ça en parallèle et tu mets les bassines, ouais, qui vont empêcher les nappes, ouais, de se remplir. Et donc, on va se retrouver à ne plus avoir d'eau dans les sources, en fait. Donc oui, le problème est...
Bah, les barrages, c'est plus une question énergétique, en fait. Parce, ouais, que les barrages, on lâche tu lâches ton barrage quand tu as besoin d'électricité dans le réseau. Sauf que si chaque barrage appartient à des opérateurs privés, ah ben, ils en lâcheront quand il y en aura besoin, mais sauf qu'on va payer l'électricité à des prix pharaoniques, quoi. Donc,
et on s'en met plein les poches au détriment de l'être humain.
Ouais. Et du contribuable.
Ce qui existe déjà maintenant.
Oh, je pense que ça existe depuis très très longtemps.
Exactement.
En fait,
ouais, mais là, c'est puissance 10, quoi, quand même.
Le fond est le même, c'est la forme qui évolue.
Ou qui va au moins s'étendre dans des domaines où jusqu'à maintenant le public tenait.
Bah surtout, c'est que moi, ce que je trouve admirable de la part des gens qui font la pluie et le beau temps sur cette planète, c'est qu'on arrive à détourner l'attention des gens qui sont tout en bas. Et bah, comme ça, ils ne se rendent pas compte des problèmes. Et surtout, voilà, comme je disais, ils se trompent clairement d'ennemis.
Bah oui, vu que bah moi j'ai grandi en nous apprenant que ces cheminots ils faisaient encore grève. Hein.
c'est vrai.
Oui, mais tu vois, j'ai eu la réflexion avec c'était mon père. Bah, on devait faire une émission mardi.
Ouais.
Et en fait, il n'y avait pas de train sur la ligne donc sur Fismes Reims. Hein. Et c'est mon père qui m'a appris ça. Puis il fait oh, ils font chier encore. Et là, je me suis dit bah, en fait, vu que toi tu prends pas le train, en quoi déjà ils te font chier? Et après, je fais, est-ce que tu sais pourquoi ils font grève? Et okay. Voilà, il m'a pas répondu, mais je me dis, quand pendant 20 ans, on t'a sorti ce discours-là à la télé, eh ben oui, s'ils font grève, c'est un peu comme les enseignants ou tous les services publics qui font grève. La majorité de la population, on leur a expliqué qu'ils faisaient grève pour n'importe quoi. Donc,
Moi, ça me fait penser à un film de science-fiction qui s'appelle Inception.
Oh.
Et ben, là où c'est que là, c'est de la science-fiction, ben, moi, je me rends compte que dans le monde dans lequel nous sommes vraiment, on arrive vraiment à mettre des idées dans la tête des gens et pourtant c'était pas la leur au départ.
C'est vrai.
Oui, mais tous les médias sont... Ah quoi, bah. Tu sais qui possède tous les médias. Donc
ah bah bien sûr. Bon, voilà, moi, ça fait 20 ans que je vis sans télévision et puis les gens qui y sont accros n'arrivent pas à comprendre.
Mais si tu veux,
c'est addictif, hein.
je crois que... Quoi, j'en parlais avec Simon à la suite de l'émission de l'autre fois parce que je crois que ma voisine qui était là, quoi, elle dit ouais, de toute façon, moi, j'ai plus la télé. Et j'ai l'impression que la différence... dans la population, elle se fait entre ceux qui regardent la télé à longueur de journée et ceux qui s'informent autrement, quoi, en fait, et qui réfléchissent par eux-mêmes.
Bah, voilà, c'est, en gros, c'est d'aller chercher l'information, pas de la prendre et de la digérer.
Gérer.
Mais ça dépend aussi, parce que, par exemple, hier soir à la chorale, la chef de chœur nous parle d'une musique, et puis il y a une de mes voisines qui me dit bah, « c'est dans la pub à la télé ». Et je lui dis, moi, je regarde une télé, mais il n'y a pas de pub.
Bah, c'est comme moi, j'écoute
la radio. Tu
regardes
pas la bonne chaîne.
Moi, c'est pareil, j'écoute la radio, il n'y a pas de pub.
Nos auditeurs aussi, 100% des auditeurs et auditrices.
Voilà. Alors, je ne peux même pas connaître cette musique-là pour ma chorale.
Bah, voilà.
Et là, on se fait qualifier d'inculte.
Ah, mais un de mes fils, qui il y a une paire d'années, donc il avait une vingtaine d'années, dans une soirée, rencontre une nouvelle personne et à qui il dit qu'il n'avait pas la télé, mais l'autre n'en revenait pas, quoi. Et après, il fait ouais, Florent, il n'a pas la télé et tout, comme si il sortait de sa grotte, mais en fait, les séries, il les regarde sur son ordi, quoi. Donc, il est absolument au courant de tout ce qui se passe en série et tout ça, mais sans la télé, quoi.
Moi, ouais, j'y vois comme une forme de stigmatisation, que c'est qu'on pointe du doigt en disant différent.
Ouais, ouais, voilà. C'est exactement.
Mais c'est
ça.
Pas d'aujourd'hui, hein, parce
ah, bien
que
sûr
moi,
que non.
Quand je travaillais, j'étais à l'Éducation nationale. Au moment des récréations, et ben tous les instituts parlaient du programme de la veille de la télé.
Je sais, j'ai connu ça parce que pendant pas mal d'années, j'étais volontaire en milieu scolaire. Donc j'allais voir les CM1, CM2 pour les sensibiliser sur les risques liés au train. Ouais. Et j'ai rarement eu des conversations passionnantes avec les enseignants dans les cours de récréation.
C'était incroyable. Et puis moi, j'avais jamais rien vu.
Mmh. Ah, mais et moi, j'ai entendu, quoi, à une époque, j'avais des collègues et puis au café le matin, c'était la discussion télé. Et puis elle fait, il n'y avait rien à la télé. Qu'est-ce qu'on a regardé hier soir? Il n'y avait rien à la télé. Éteins-la, quoi, de regarder un truc qui ne te plaît pas.
Ah oui, mais quand tu as quelque chose qui a permis à des gens de s'occuper un peu en début de soirée, et maintenant, ils ne s'occupent qu'avec ça, en fait. Mmh. Donc si tu la supprimes...
Moi, j'ai une petite anecdote sympa. C'était dans les années 70, il y avait le Front de Libération de la Bretagne qui avait dynamité un émetteur télévision. Et pendant plus de 3 semaines, il n'y avait plus aucune émission, c'est le cas de le dire. Et il y avait eu des témoignages des gens à l'époque qui disaient, c'est simple. Bon, c'était un petit peu l'avènement de la télévision, hein, je pense, dans les années 70. Mmh. Et les gens se sont dit, c'est simple. Le soir, on parlait ensemble, on faisait des jeux de société, des choses comme ça. Et étonnamment, ça avait recréé un lien social qui avait déjà commencé à s'amenuiser. Mmh. Et moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que là, de nos jours, si jamais il y a un espèce de blackout au niveau de la télévision, au niveau des réseaux de communication, Internet, etc. Je pense que là, les gens vont être complètement démunis. Ils vont plus savoir quoi faire.
Ouais.
C'est vrai.
Ils vont découvrir qu'ils ont des voisins.
Oui, c'est ça.
Ça pourrait être salvateur, je pense. Il faut être préparé. Psychologiquement, il faut être prêt.
Il n'y a pas de problème. Moi, en camping l'été, pas d'électricité.
Ah, mais moi, ça...
Je ne pense pas
que ce soit...
En fait, si tu y vas avec l'attention d'être coupé. Oui. Si tu coupes une personne... alors qu'elle ne l'est pas préparée et que pour elle, elle ne le conçoit pas non plus, ça peut être compliqué à gérer.
Non, mais j'ai été horrifiée ces dernières... Enfin, ça dure depuis déjà un certain temps, que les gens qui vont en camping, en caravane ou en mobil-home, ils ont tous la télé.
Ouais.
Et le soir, ils regardent la télé.
Moi, je partais en village de vacances, il y avait la télé dans les logements. Je dis, je ne la regarde pas l'année, donc ce n'est pas pour la regarder.
Ah non, mais force est de constater que c'est plus addictif que de la coke. Hein.
Mmh, ouais,
parce que là, les gens, si on leur supprime la télé, ils vont devenir encore plus fous qu'un cocaïnomane en banque. Hein.
Ouais.
Moi, je me rappelle quand je préparais ma thèse, donc c'était 2008. Ouais, 2008, donc ça remonte à... À l'époque, c'était hallucinant, c'est dès qu'il n'y avait plus Internet au laboratoire, au bout de 7 secondes, tout le monde sortit de son bureau. Arrivé dans le couloir, mais en mode, on n'a plus Internet. Et tu te dis, enfin, moi je travaillais que sur une feuille papier pour écrire mes trucs, donc ça ne me dérangeait pas. Ils n'en avaient pas besoin en fait. Mais ils étaient perdus en fait. Le fait qu'il n'y ait pas Internet, ils avaient peur de manquer une information.
Quelque chose, ouais.
Ah, là, s'il y a une panne générale, Internet et puis téléphone portable, alors là, c'est...
un sacré bordel.
Ouais.
Et moi, ce que je ressens aussi dans l'être humain, alors vous qui êtes un peu plus ancien que moi, je pense que vous pourrez peut-être corroborer mes propos, mais aujourd'hui, les gens, plus que jamais, du fait qu'ils manquent vraiment d'autonomie dans la vie de tous les jours, ils ont besoin d'être rassurés, d'être toujours reliés à quelque chose, notamment au téléphone, à Internet et tout ce qui s'ensuit. Mais la question que je vous pose, c'est est-ce que par le passé, les gens étaient beaucoup plus autonomes que ceux qui se raccrochent à ça aujourd'hui ?
Moi, je peux répondre, j'avais juste lu le titre d'un article qui disait, en fait, les enfants des années 80 n'auraient jamais dû survivre. Hein. Et en fait, au début de l'article, il t'explique ce qu'en fait, moi j'ai connu ça, c'est qu'à l'époque... la seule règle que j'avais, c'est de rentrer avant qu'il fasse nuit.
Ouais.
Alors, on commence à fermer les portes à clé, tout le monde ne le faisait pas, mais sinon, la seule règle que j'avais, c'est oui, tu rentres avant qu'il fasse nuit. Et je n'avais pas vraiment de consigne. Si, j'en ai eu au tout début, je pense que j'ai appris certaines règles de sécurité avec ma mère, en me disant, t'évites ces endroits-là. Et le reste, je me débrouillais pas tout seul, mais j'avais une plus grande autonomie que les personnes, enfin que les enfants que je connais à l'heure actuelle qui vivent à la campagne, qui à 10 ans sont limités à rester devant leur porte. Oui,
oui, ou alors ils ont le téléphone portable et puis les parents savent, il y a le GPS et les parents savent
à chaque minute.
Ça, ouais, je connais.
Ils sont
aussi,
cliqués,
ouais.
Les gamins.
Moi, ça m'a un peu frappé. Il y a peu de temps, j'étais à Lyon, centre-ville. Il y avait deux adolescentes qui avaient des téléphones qui étaient encore beaucoup plus évolués que le mien que j'ai à l'heure d'aujourd'hui. Même avec Google Maps, elles étaient incapables de trouver la route. C'est où la rue machin?
Non, mais ça, moi, ça...
Et moi, c'est ça qui me fait peur.
Moi, je suis anti-GPS. Alors après, bon, pour les gens qui circulent tout le temps, c'est vrai que c'est pratique. Ah, c'est pas le contraire.
C'est un bon outil, mais le problème, c'est que le jour qui ne fonctionne pas, on ne sait pas utiliser les solutions alternatives.
C'est très bien pour quelqu'un qui sait utiliser une carte. Mais moi, les enfants, je ne sais pas s'ils ont appris à utiliser une carte ou pas, mais ils seraient capables d'être perdus. Quoi, limite, celui qui a jamais appris à utiliser une carte, déjà, il reconnaît pas le trajet parce qu'on lui dit tourne à droite, tourne à gauche, donc il
donc
fait pas attention.
Il n'y a pas de repère visuel.
Il n'y a pas de repère visuel. Et s'il ne sait pas lire une carte, il est capable d'être perdu à 10 km de chez lui. Quoi.
Pas seulement la perte des repères visuels. Moi, je crois que ce qui manque au niveau d'un GPS ou d'un portable pour s'orienter, c'est une vision d'ensemble. Et ça, je trouve que c'est extrêmement grave. On n'a pas la vision d'ensemble d'un trajet. Quand on l'a, il est en tout petit, donc ça représente
rien. Donc on ne voit pas.
Non, mais ça
représente rien du tout.
Ça rejoint ce que disait Julien sur l'individualisation. En fait, on empêche les gens d'être connectés au monde qui les entoure. En fait, autant les rapports humains entre eux que les rapports avec les magasins, les rues, la nature qui est autour. Donc ils sont juste enfermés avec leur téléphone. Ils ont leur monde à eux. Et c'est tout, en fait.
De toute façon, on nous dit que les autres sont dangereux. On nous dit que la nature, c'est dangereux parce qu'on risque de se faire piquer par des moustiques ou des temps ou des je sais pas quoi. Donc, tout est fait pour nous couper, oui, effectivement, et que chacun soit complètement traumatisé dans son coin. Quoi.
Alors, pour répondre à ta question, est-ce que les jeunes sont plus autonomes maintenant qu'avant ?
Non, j'aurais dit le contraire, plutôt.
Non, mais c'était ça que tu posais comme question.
La question, c'est est-ce que la jeunesse était beaucoup plus autonome quelques décennies en arrière ?
Alors, oui. Moi, je réponds oui, parce que je vois avec mon petit-fils, mais maintenant, maintenant, pourquoi ? Je ne sais pas, mais les parents, par exemple, ont peur de le laisser sortir tout seul, de peur qu'il se fasse enlever, de peur qu'il lui arrive un accident, de peur. Alors c'est vrai que c'est en ville, en appartement et en ville.
Donc le lieu n'est pas forcément propice au développement personnel. Oui.
Mais t'as de tout, je veux dire, dans la société, il n'y a pas que les gens à la campagne, comme disait Simon, mais bon, en ville. Et moi, par rapport à ce que j'étais, moi, au même âge que le Isaac, actuellement, mais moi, je circulais dans la ville, j'allais n'importe où, à 10 ans. Parce que lui, non. Hein. Et alors, forcément, ça crée une carte mentale de la ville
que
lui n'a pas.
Tout.
Et lui, il a peur de... Ah bah oui, il a peur de beaucoup de choses, ça, c'est clair.
Mais surtout, c'est qu'on a peur de ce qu'on ignore, c'est ça le pire.
Oui.
Je vois l'heure qui file. Et je me dis, alors Cécile, tu nous avais recommandé un...
Ah bah oui, tu peux passer le petit morceau.
Qu'un homme utilise sa stature d'homme de pouvoir pour avoir des faveurs, ça vous dérange pas ?
Bien sûr que ça me dérange.
Et bien pourquoi il est encore là ?
Attendez, madame. C'est pas moi qui... Moi, je suis pas juge, vous savez. Je suis pas juge.
Moi, je vois que cet homme est en haut de notre pays. Je suis désolée, en tant que femme, je ne me sens pas en sécurité.
C'est un sujet qu'on règle pas du jour au lendemain, vous êtes d'accord ?
Soyez irréprochable déjà dans les personnes qui vous représentent, c'est-à-dire les députés, les ministres. On ne peut pas avoir confiance en des gens qui ont des casseroles, c'est même plus des casseroles, c'est une cuisine complète au cul.
Voilà, j'ai beaucoup aimé l'expression, c'est plus des casseroles, c'est une cuisine complète au cul. Parce que effectivement, donc là c'est une femme qui interpelle Elisabeth Borne à propos de Damien Abad, qui est un nouveau ministre, qui a été avant ministre de la Solidarité, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées, qui est accusé de viol par deux femmes et de tentative de viol par une troisième. Donc c'est des faits qui remontent à 2010 et 2011. Donc quand la première ministre dit on ne peut pas résoudre ça en peu de temps, ben là quand même depuis plus de 10 ans, il y aurait moyen ou au moins d'envoyer un signal fort à la population en ne le prenant pas dans le gouvernement. Mais du coup, ça m'a amené à faire une petite liste de ces personnes qui sont au gouvernement ou qui sont députées et qui ont des grosses casseroles.
On t'écoute avec plaisir.
Oui. Donc, nous avons Alain Griset. Donc là, c'était... il a été ministre délégué au PME. Condamné en décembre 2021 à 6 mois de prison avec sursis pour une peine d'inéligibilité de 3 ans pour déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale. Lui, il a démissionné du gouvernement. Nous avons Agnès Buzyn, ministre de la Santé, mise en examen devant la Cour de justice de la République pour mise en danger de la vie d'autrui. par rapport à sa gestion du Covid. Dans le même dossier, nous avons aussi Olivier Véran et Édouard Philippe pour les mêmes faits. C'est toujours en instruction. Éric Dupond-Moretti, qui est quand même le garde des Sceaux, donc un garde des Sceaux, c'est quand même un poste important dans un ministère, c'est pas...
Dans la justice.
Garde des Sceaux, les Sceaux, c'est tous les autres ministres, c'est ça?
Non.
Je la connaissais pas, cette variante. Elle est magnifique. Il doit être dans le Sceau avec les autres.
Donc lui, il est mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Ce qui s'est passé pour lui, c'est que les autres, souvent, c'est des affaires, quoi, sauf Agnès Buzyn, mais par exemple, M. Griset, c'est des affaires avant qu'il soit ministre. Que là, lui, c'est ses fonctions. Et le Premier ministre, Jean Castex, lui a renouvelé toute sa confiance. Gérald Darmanin, donc lui, c'est abus de faiblesse par une habitante de Tourcoing, qui affirmait avoir été contrainte à des relations sexuelles en échange d'un logement et d'un emploi, alors qu'il était ministre des Comptes publics. Ça a été classé sans suite. Ensuite, il a été accusé de viol en 2009 par une autre personne, lorsqu'il était responsable intermédiaire à l'UMP. Le juge d'instruction a prononcé la fin des investigations en septembre 2021, sans mettre le ministre en examen, orientant l'enquête vers un non-lieu. Le haut fonctionnaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, a démissionné en 2019 après avoir été mis en cause pour ne pas avoir déclaré plusieurs mandats à la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique pour éviter les conflits d'intérêts. Il a été condamné pour cela à 4 mois de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende.
Mais pas d'inéligibilité.
Non. Et bon, il y a toujours une enquête en cours. Sinon, pour Olivier Dussault, il est visé par une enquête du parquet national financier pour corruption et prise illégale d'intérêt. Pour avoir reçu en 2017 deux lithographies en cadeau d'une entreprise alors qu'il était député maire d'Annonay. Le PNF enquête aussi, donc c'est le parquet national financier, je crois, quelque chose comme ça, sur des soupçons de prise illégale d'intérêt visant Sébastien Lecornu, chargé des Outre-mer pour ses activités passées à la tête du département de l'Eure et au conseil d'administration d'une société autoroutière. Plus anciennement, Richard Ferrand, à peine nommé ministre de la Cohésion des Territoires, est épinglé par le Canard enchaîné qui révèle qu'en 2011, les mutuelles de Bretagne qu'il dirigeait ont loué des locaux commerciaux appartements à sa compagne. Il a quitté le gouvernement en 2017 et... Il succède à François de Rugy à la présidence de l'Assemblée nationale en 2018. Richard Ferrand se justifie, un mis en examen n'est coupable de rien. Mais en examen pour prise illégale d'intérêt, il se voit reconnaître le 31 mars 2021 la prescription des faits. Mais cette décision n'est pas définitive. Bayrou, Sarnez et Goulard. En juin 2017, le parquet de Paris ouvre une enquête visant le MoDem, présidé par François Bayrou, sur des soupçons d'emploi fictif d'assistant d'eurodéputés. C'était ce qui était arrivé aussi à Marine Le Pen. C'était pas que des soupçons, apparemment. Je pense à peu près la meilleure, c'est quand même Christine Lagarde, qui, fin 2016, ministre de l'économie, a été déclarée coupable, mais dispensée de peine par la Cour de justice de la République, en raison notamment de sa réputation internationale. Donc en fait, il y avait eu un arbitrage entre le Crédit Lyonnais et puis Bernard Tapie, qui avait revendu au Crédit Lyonnais Adidas. Bon, c'était un peu compliqué. Et Bernard Tapie avait touché 400 millions d'euros de prix sur les deniers publics. Sauf que, c'était frauduleux. Il n'aurait jamais dû recevoir cette somme. Après ça, elle est passée directrice du Fonds monétaire international. En 2019, elle a arrêté le FMI. Et maintenant, elle dirige la Banque centrale européenne. Elle est présidente. Et bon, les députés ne sont pas en reste. Nous avions eu Sylvie Andrieux, qui était députée à Aix-en-Provence, qui a été condamné à 4 ans de prison, dont 3 avec sursis, pour détournement de fonds publics à visée clientéliste. Et du coup, elle est passée son année où elle n'était pas en sursis avec un bracelet électronique dans l'hémicycle. Et puis, nous avons aussi un autre député, anciennement LREM, qui a mis un coup de casque à un collègue, donc qui a été condamné pour agression et... avec 2 ans d'inéligibilité. Et les médias nous disent il ne s'est pas représenté cette année. Bah oui, il était inéligible, donc normal.
C'est vrai qu'on peut comprendre l'abstention, surtout les personnes qui se disent pourquoi diable aller voter.
Ouais.
Alors Sylviane, est-ce que tu peux nous parler de certaines choses qu'il peut y avoir cet été?
Alors cet été, Attaque et d'autres organisent une université d'été européenne des mouvements sociaux. Ça se passera du 17 au 21 août à Mönchengladbach en Allemagne. C'est quoi une université d'été européenne? Une rencontre entre mouvements européens où nous pouvons apprendre les uns des autres. Une occasion de coordonner des luttes et des campagnes européennes. Une occasion de construire ensemble des savoirs, des pratiques dont nous avons besoin dans nos combats pour un monde meilleur. Et un moment pour faire la fête ensemble, pour s'enthousiasmer, se motiver mutuellement et pour créer une culture de résistance qui fera avancer un réel changement. Entre autres, vous trouverez des ateliers sur la justice fiscale, le féminisme, l'eau, l'altermondialisme, le financement de la bifurcation écologique, la guerre, l'intersectionnalité, Amazon, système de protection sociale et bien plus encore. L'Université européenne des mouvements sociaux se déroulera dans les locaux de la Hochschule Niederrhein à Mönchengladbach. C'est un peu au sud de Cologne.
Pour tous ceux et celles qui sont intéressés, faites une recherche directement en tapant les mots-clés « Université d'été Attaque ». Vous tomberez forcément sur ce site-là. Vous allez voir qu'il y a déjà des propositions pour les transports, pour l'hébergement, que tous les ateliers seront majoritairement disposés en anglais, en français et en allemand. Et en fait, le programme, même s'il va être étoffé, vous sera aussi présenté. Sylviane, c'est bien ça?
Oui, oui, c'est tout à fait ça. Je voulais simplement dire aussi et ajouter que si des personnes sur Reims sont intéressées, ils peuvent aussi contacter reinsattaque.org. Nous pourrions également organiser un covoiturage.
Ouais, reins@attaque.
Voilà, reins@attaque.org.
Ouais.
Pour organiser un covoiturage pour nous y rendre.
Oui, bien sûr.
Non, mais ça peut être intéressant.
Bien sûr.
Ouais. Donc, c'est pour la fin, milieu-fin du mois d'août.
Ouais, c'est vrai que c'est intéressant d'y aller parce qu'on peut rencontrer des personnes en fait, qui se battent pour des causes proches ou un peu éloignées des nôtres. Et c'est aussi un côté rassurant de pouvoir se dire, voilà, on n'est pas les seuls à se battre difficilement en ce moment parce que tous nos combats ne mènent pas jusqu'à la victoire en ce moment. Donc ça peut être bien pour se retrouver avec des personnes qui militent comme nous.
Mmh. Oui, oui. Et une autre information, pour les personnes qui ont envie, vous avez aussi du 8 au 10 juillet ZAD Envie sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Alors là, c'est le 10e anniversaire de la résistance face à l'opération César, hein, moment où nombre de peuples debout, B-O-U-E, ont résisté à l'attaque. Donc, les zadistes vous proposent un grand moment de fête, de danse, de spectacle, de projection, de promenade dans le bocage, de jeu et en même temps de réflexion sur les différentes luttes locales, nationales, face au libéralisme. Imaginez des solidarités populaires, oser des hypothèses révolutionnaires, se doter d'outils pour prendre soin du collectif. Donc, si vous êtes intéressé, toujours pareil, vous pouvez aller voir sur le site zad.nadir.org. Les rencontres à Notre-Dame-des-Landes, ZAD Envie, du 8 au 10 juillet.
Ok. Super, c'est bientôt.
C'est bientôt.
Ouais, ouais. Voilà, donc 2 rencontres, mais il y en a sans doute d'autres. Hein. Je n'ai pas tout répertorié.
C'est, si vous faites une recherche sur, avec le terme chantier pluriversité, vous trouverez des chantiers collaboratifs qui ont lieu cet été. Et ça peut peut-être intéresser certaines et certains d'entre vous. Bah, du coup, Julien, j'espère que ça t'a plu de participer avec nous.
C'était un plaisir d'échanger avec vous.
Et bah, merci en tout cas de nous avoir éclairé sur cette formidable aventure qu'est la SNCF.
Ouais.
Ah ben, moi, ce que je souhaiterais vraiment de tout cœur, c'est qu'on mette en lumière toutes ces parties obscures pour que les gens aient vraiment un avis objectif sur la question.
Ouais, c'est vrai. Et rien ne remplace l'expérience des gens de terrain.
Ouais, c'est sûr. Et ben, du coup, bonnes vacances tout le monde et à septembre.
Merci,
ciao.
Merci, à bonnes vacances.